ça fait déjà un certain temps qu'on n'avait pas ce cours métaphysique. Alors, nous essayons, hein. Nous sommes dans une démarche inductive. Dites-vous bien ça. La grande démarche inductive, saint Thomas a précisé, pas d'évidence du mystère de Dieu, de l'existence du mystère de Dieu, pas d'évidence. Dieu est un Dieu caché. Pas d'évidence, mais une démonstration. Ah. Tout nous parle de Dieu. Tout peut nous parler de Dieu. Tout peut nous faire découvrir l'existence de Dieu. Pas de preuve a priori. C'est très très important. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus que des preuves a priori. Notre intelligence est ainsi faite depuis plusieurs générations. Nous avons une peine énorme à comprendre ce que c'est que l'induction. De comprendre ce que c'est que la remontée vers la source. Une peine énorme à comprendre qu'il y a deux espèces de raisonnement en nous. Et je crois que c'est très, très important. Parce qu'au fond, instinctivement, nous ne reconnaissons qu'une seule preuve de l'existence de Dieu, les preuves qui nous sont données par le point de vue de la géométrie, des mathématiques, des preuves a priori. Des preuves par la définition. La définition a pris une importance énorme. La définition, c'est la cause formelle. Elle a pris une importance énorme. Tant qu'on n'a pas défini quelque chose, on n'est pas tranquille. On veut définir, on veut tout définir. Or, justement, Dieu ne peut pas être défini, indéfinissable. Si Dieu est indéfinissable, est-ce que nous pouvons encore parler de preuve de l'existence de Dieu? Oui, mais en comprenant que ce sont des voies d'accès. Ce sont des directions. On ne met pas la main sur Dieu. On dit « il existe ». Comme je le dis pour l'homme. Pierre, il existe. Je le définis. Je l'ai vu. Je vous affirme, je l'ai vu. Je n'ai pas vu Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu. Mais il y a à côté de la démonstration la voie très humble de l'induction où je monte progressivement vers la cause qui est cachée. Progressivement, je découvre l'effet propre de la cause. Et c'est cet effet propre de la cause qui peut seul faire le déclic. Il y a une cause. elle est là. J'affirme qu'elle est là. Pourquoi ? Parce que j'ai saisi son effet. Je ne saisis pas Dieu, mais je saisis l'effet. Quel est l'effet propre de Dieu ? Il faut qu'il y ait toujours ça sous-jacent. Quel est l'effet propre de Dieu ? L'effet propre de Dieu, ce n'est pas l'effet d'un artiste. La plupart du temps, nous raisonnons comme pour un artiste. Un artiste, nous savons très bien ce que c'est. Nous avons visité beaucoup d'expositions de peinture sans connaître l'artiste. On n'a pas connu l'artiste. On parlait beaucoup de lui, et on parlait de lui. On disait, oui, c'était un génie, un petit génie qui commençait. On a beaucoup parlé de lui, mais on ne le connaît pas. Mais on connaît ses œuvres. Du moins, elles sont exposées. Je regarde ses œuvres. Oui, c'est beau, c'est intéressant. Il y a quelque chose. Il ne fait pas uniquement que copier. Il découvre autre chose. L'induction, remonter à la cause. Par l'effet. Un effet qui ne peut pas s'expliquer par toutes les causes déjà découvertes. Il y a quelque chose dans son œuvre qui n'explique pas par son, tous les maîtres qu'il a pu avoir. Non, c'est autre chose. Il y a quelque chose d'original qui relève de lui et qui n'est pas toi. Tiens, original, sensible commun, sensible propre. Je ne découvre Dieu, je ne peux pas découvrir Dieu par les sensibles communs, puisque c'est commun. Ça s'explique par toutes les causalités, n'importe laquelle. Qu'est-ce qui est l'effet propre de Dieu qui détecte quelque chose qui ne peut provenir que de lui ? Il faut que vous ayez ça dans la tête. Qu'est-ce qui ne peut provenir que de Dieu ? Vous pouvez mettre la main dessus, ça, l'homme ne peut pas le faire. Qu'est-ce que c'est que l'homme ne peut pas faire ? Parce qu'il fait des choses extraordinaires aujourd'hui. Il fait des ponts aériens, il fait des avions merveilleux, des autos extraordinaires. L'homme conquiert l'univers. Tout l'univers est dans sa main. Il en fait le tour. Qu'est-ce que l'homme est obligé de reconnaître ? Ça, pas fait. Ceci, c'est présupposé, connu, hein. Il y a une recherche antérieure à la véritable démonstration, à la véritable voie. Saint Thomas parle des voies. Il ne parle pas des démonstrations, il parle des voies. Exprès. Parce que qui dit voie, ça n'a pas la rigueur de la démonstration. C'est le chemin. Ça indique on va vers. Et on va vers, et on se casse la tête sur quelque chose qu'on ne peut pas dominer et qu'on ne domine pas. Qu'est-ce que il y a actuellement dans le monde, quelque chose que l'homme ne domine pas ? Quelque chose que l'homme, que la science de l'homme, que le pouvoir de l'homme ne domine pas. Quoi ? Je pense tout de suite à la mort, tiens, tiens. La vie, à la vie, oui, l'homme peut donner la vie. Oui, il peut donner la vie. Mais il la donne sans la posséder. Tiens, s'il la possédait, il n'y aurait pas la mort. Donc il donne la vie sans trop bien savoir ce que c'est. Il la communique. Il communique la vie. Mais s'il la donnait vraiment et qu'il était, que la mort était en son pouvoir, mais, et que la vie était en son pouvoir, il n'y aurait pas la mort. La mort n'est pas dans mon intention. Même les gens qui ont une psychologie morbide et qui pensent tout le temps à la mort, dès que la mort s'approche, il s'enfuit. Ah tiens, c'est curieux ça. Et ceux qui veulent se suicider, c'est comme ça. Alors ils disent souvent, on va se suicider, on va se suicider. Oui, oui, oui. Et on a envie de dire, on ne le dit pas, parce qu'il ne faut pas précipiter dans le mal. On a envie de dire, mais faites-le. Ils sont souvent n'importe quelle excuse, ils ne vont pas, ils tournent le dos. La mort est quelque chose que je ne domine pas. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a un trou. Fameux. Je ne domine pas. Je voudrais bien savoir. Ce serait beaucoup. Quand on a insisté à la mort de quelqu'un, surtout quand on a insisté à la mort de quelqu'un qu'on aime, parce que quand on insiste à la mort de quelqu'un, c'est toujours dur, c'est toujours... C'est très grand, la mort. C'est très absolu. C'est le seul absolu dont j'ai l'expérience, hein. Dites-vous bien ça, c'est le seul absolu. Vous ne pouvez pas y revenir. Vous ne pouvez pas dire, ah, j'étais pas assez présent à sa mort. Reviens et recommence. Non. Vous acceptez. Vous ne pouvez pas le reprendre. La mort, vous ne pouvez pas la reprendre. C'est un absolu. C'est l'absolu du rien. De la négation du non-être. Il était vivant, il n'est plus vivant. Qu'est-ce qu'il est? Je ne sais pas. On me dit que son âme vit. Oui. On n'aperçoit pas, aucun signe. Je l'appelle, aucun signe. Il ne répond plus. D'habitude, le vieux papa répondait toujours à sa petite fille. Il ouvrait vaguement les yeux. Ah, tu es là. Non, il ne répond plus. Il y a un absolu. Il y a un absolu de la mort qui n'est pas drôle du tout. Hein, parce que c'est un absolu négatif. C'est la vie n'est plus là. Je crois que c'est très important pour nous de bien voir quel est l'absolu devant lequel vous ne pouvez rien. L'absolu qui vous domine, qui vous oblige à l'accepter. Pas contourner, non. Vous faites tout pour l'écarter. Vous soignez jusqu'au bout. Vous suppliez les médecins vers tout ce qu'ils peuvent. Et vous, jusqu'au bout, ils font des soins même exagérés quelquefois. Parce que on le supplie de lutter contre la mort. C'est le seul absolu dont j'ai l'expérience. Le seul absolu dont j'ai l'expérience. Absolu parce que ça m'échappe complètement. Non seulement à moi, mais à tous mes amis, à tous ceux qui sont là présents. Ça échappe aux hommes. C'est quelque chose qui est au-dessus d'eux. Les hommes font des progrès intenses pour la vitesse, pour l'efficacité, pour ça. Mais la mort, elle existe toujours. Et elle est toujours la même. Elle s'impose toujours comme quelque chose. Je ne peux pas recommencer. C'est ça l'absolu. Je ne peux pas recommencer. Ça m'échappe. Ça ne m'appartient pas. Tout le reste, vous recommencez. Vous pouvez recommencer. Sauter telle hauteur, puis ça ne va pas. Vous recommencez. Et au bout d'un certain temps, vous le faites. On recommence constamment la vie. Et on arrive à faire là l'absolu. Je crois que c'est très important, ça, pour nous. Et c'est un absolu que tout le monde est obligé d'accepter. Même celui qui dit qu'il n'y a rien, il n'a rien, il doit accepter la mort comme un absolu encore plus grand, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a plus rien après. Donc c'est un absolu pour l'âme et le corps, alors que pour moi, c'est un absolu de sa vie humaine, pas l'absolu de sa mort, de son âme. C'est la différence qu'il y a, la mort pour le chrétien et la mort pour celui qui croit même pas en l'âme spirituelle. C'est encore plus un absolu. Et c'est un absolu tellement fort qu'il ne veut pas la regarder. C'est trop fort. Alors que pour le chrétien, même si le mort, c'est l'époux, l'épouse, même si le mort, c'est l'enfant, la mort n'est pas un absolu complet. C'est un absolu par rapport à la vie humaine qu'on mène. Il y a un absolu, mais pas un absolu complet. Je présuppose qu'il y a en celui qui est mort quelque chose qui continue. Et quelque chose qui est le principal. Je ne le vois pas, mais j'y crois. Là, c'est vraiment, j'y crois. Ce qui fait que cet absolu de la mort, ben oui, c'est un certain absolu. Parmi les choses terrestres, parmi mes expériences humaines, la mort est un absolu de l'expérience humaine. La mort n'est pas un absolu de ma métaphysique, de ma pensée, de mon amour. Mais la mort est un absolu de mon expérience humaine. J'appelle, il ne répond pas. J'appelle, il ne répond pas. Il n'est plus là. Je suis obligé de savoir, il n'est plus là. Et si j'étais trop lié à ma mort et que je serre le cadavre de toutes mes forces, je suis obligé de reconnaître qu'il n'est plus là. terrible, une expérience d'un vide terrible. Jusque-là, il répondait, il ouvre un peu les yeux. Il était là. La mort est une expérience de l'absolu. Faut reconnaître ça. Ça, je crois que tout le monde peut le reconnaître. Faut pas être croyant pour reconnaître que la mort est absolue. On reconnaît qu'il n'est plus de ce monde. Et ça dit bien la chose, qu'il n'est plus de ce monde. Sa place dans l'humanité a disparu. Est-ce que il a une place autre part? Je n'en sais rien. Philosophiquement, je n'en sais rien. On dit que les croyants disent que, oui, les croyants disent que si j'ai la foi, je crois. Si je n'ai pas la foi, je dis certains hommes disent ça. C'est peut-être vrai. Mais je n'en ai aucune expérience. Il y a là quelque chose qui me dépasse, puisque je ne peux rien. Ça me dépasse. Je passe dans un monde autre, totalement différent, dont je n'ai aucune expérience. Si certains ont l'expérience de quelqu'un qui est mort et qui continue de vivre par des apparitions, c'est possible, mais ce ne m'est pas arrivé. Ce n'est pas dans mon pouvoir. Si c'était dans mon pouvoir, la personne que j'aime qui est morte, je lui aurais dit tout de suite, pour moi, montre-toi que tu es là. Pour moi, montre-moi que tu m'aimes encore, que tu es encore vivante. La mort est un absolu. Donc, cet absolu, s'il n'est pas pour tout le monde, il me montre qu'il existe autre chose. Et comment cette négation de la mort peut me conduire à autre chose? Si Dieu existe, j'ai absolument le droit de faire cette hypothèse. Saint Thomas lui-même, dans le DNT Essentia, fait cette hypothèse. Si Dieu existe, la mort n'existe pas pour lui. Il est Dieu. Donc, la mort me remet entièrement dans les mains de Dieu. Si Dieu existe. Quand je vis, moi, ici sur Terre, j'ai mon autonomie. J'ai ma personnalité. Elle cache Dieu. Dieu est présent derrière cette personne, derrière ma personne. meurs, quand la personne meurt face à moi, elle laisse toute la place à Dieu, si Dieu existe. Elle laisse toute la place à Dieu pour l'esprit, pour l'âme. Alors, je peux me poser la question, où y a-t-il cette action de Dieu ? N'agit pas sur sa vie temporelle, sur sa vie que je touche. Il y a un silence. Dieu ne répond pas. Et pourtant, Dieu m'aime et il sait que celui qui est mort est mon ami. Dieu existe, je dois pouvoir découvrir où il agit, sur quoi il agit encore. Sur quoi il n'agit plus, ah, je le vois, je le constate, il est mort. Est-ce qu'on est mort pour Dieu ? Dieu existe, je ne meurs pas pour lui. La mort me confie à lui d'une façon unique. Je suis remis dans les mains de Dieu d'une façon unique. Au-delà de ce que je désire. Je n'ai pas désiré cette mort. Je n'ai pas désiré ce fait de ne plus avoir aucun contact humain avec tous ceux qui s'étaient autour de moi. Je n'ai pas voulu ça. Mais ça s'est imposé à moi. C'est très important de voir qu'il y a quelque chose qui s'impose à moi. S'il y a quelque chose qui s'impose à moi, il doit donc y avoir quelque chose d'autre. Je me pose la question, y a-t-il vraiment un être qui est au-delà de la mort ? Un être qui est capable de me recevoir étant mort ? Cet être n'est pas dans le mouvement commun que je vois, je constate. Il est au-delà. S'il existe, il est au-delà, je ne le vois pas. Il peut exister, mais je ne le vois pas. Je voudrais le voir. Puis-je le voir ? S'il existe, puis-je le voir ? Est-ce que c'est possible ? Tout ce qui est sensible, tout ce qui est la vie habituelle de l'homme, de ma vie habituelle, mes échanges, fraternelle, tout. tout ça est brisé. Il n'y en a plus. Mais il est possible qu'il y ait au-delà de tout ça, de cette sensibilité humaine, de ce contact humain, un autre contact. Mon intelligence est autre que ce contact, sensible. Mon intelligence est autre. Et mon intelligence est capable de poser un être autre. Mais pour que je pose cet être autre, il faut que j'aie l'expérience qu'il existe. Cet être autre, qui serait l'être premier, qui serait Dieu. Il serait, il ne peut être qu'au-delà de la mort, tout puissant. Il agit sur quoi? Sur quoi agit-il? Sur quoi peut-il agir? Puisque sur tout ce que je constate sensible, affectif, humain, il n'agit plus là-dessus. Dieu semble respecter ce vide de la sensibilité, ce vide d'une connaissance liée au sens. D'une intelligence liée au sens. Il n'y a plus rien. Alors, si Dieu existe, il a contact avec ce qui est au-delà de ce sensible. Ce que je vois par mes sens, ce que j'entends par mes sens, il est au-delà. Si Dieu m'a créé, s'il existe, il a touché en moi autre chose, mon être. C'est ce point qui est très délicat et très important. Je découvre qu'il y a au-delà du sensible, au-delà de l'imaginaire, une intelligence. Et cette intelligence s'est exprimée pendant la vie sur ceci est. Et je ne peux plus affirmer ceci est, puisque du côté sensible, il n'y a plus rien. Et d'autre part, si Dieu existe, c'est justement cela qu'il atteint. Et ça ne peut être que cela. Il atteint quelque chose que personne d'autre n'atteint. Il est seul à pouvoir l'atteindre. Ceci est. Ce moment-là qui est très important à saisir dans le jugement d'existence. Quand vous dites ceci est, toucher dans la réalité quelque chose qui échappe au sensible, à l'imaginaire. Vous touchez quelque chose que seule l'intelligence saisit. Et quelque chose que Dieu seul saisit. Sensible propre. Que Dieu seul saisit. Et non pas la quantité, les choses visibles et tangibles. Alors, pour découvrir Dieu, le seul moyen, c'est de découvrir ce que Dieu seul atteint en moi. Ce que Dieu seul atteint en moi. S'il existe ce que Dieu seul atteint en moi, c'est le seul moyen pour moi d'affirmer qu'il existe. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que ça indique sa présence. C'est, ça existe. Vous voyez ? Comment je peux, avant de prouver l'existence de Dieu, réfléchir? C'est ce que saint Thomas fait dans Dente Essentia, à 25 ans. Il a fait ce petit traité. Avant même, qu'est-ce qui, en moi, n'est touché que par Dieu? Et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est seulement ça qui peut me prouver l'existence de Dieu. Tout le reste peut s'expliquer d'une autre manière. Mais ça, non. Dieu seul peut le toucher, s'il existe. Je porte donc en moi quelque chose qui échappe au contrôle de toute autre causalité. Je porte en moi quelque chose qui échappe au contrôle de toute autre causalité et qui est dépendant directement de la causalité première. Donc, lorsque je dis « Dieu me crée », c'est Dieu qui me donne ce quelque chose. Cela vient de Dieu. Et cela demeure toujours en lien avec Dieu. Seul mon être, dans ce qu'il est, échappe à l'emprise de tous les changements humains. C'est quelque chose qui ne dépend que de la cause première. Ceci est. Voyez, cette démarche du Dente Essentia qui est très intéressante. Qu'est-ce qui en vous ne dépend d'aucune causalité seconde, aucune causalité créée, aucun du milieu. Il y a en vous, en moi, quelque chose qui n'est atteint, qui n'est touché que par l'être premier, que par Dieu. S'il existe, Dieu, je ne l'ai pas vu, mais je vois, je touche intellectuellement quelque chose qui ne peut être atteint que par Dieu. Et qui est au-delà de mon pouvoir et au-delà du pouvoir de tous ceux, de toutes les créatures que je connais, de toute cause créée, qui atteint toujours les choses par le mouvement. L'activité de toutes les choses qui sont autour de moi, qui ne sont pas moi, c'est par le mouvement. Tandis qu'il y a quelque chose en moi, ce quelque chose, ceci est, qui lui est au-delà de toute causalité qui se fait par le mouvement. Et c'est proprement cela qui me permet d'induire si cela est, il y a une cause. Il y a une cause qui me dépasse, que je peux atteindre, que je n'atteins que par là. Vous voyez, ce petit raisonnement de saint Thomas dans l'Oriente Essentia est très intéressant parce qu'il prépare, il montre que je ne peux pas prouver l'existence de Dieu, je peux seulement atteindre un effet qui ne peut venir que de la cause première, que de l'être premier, qui, en moi, est au-dessus de tout mouvement. Qui, en moi, est. Et c'est cela qui me permet de dépasser toutes les réalités du mouvement et d'affirmer qu'elle existe.